Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors moi, j'ai été vraiment très, très contente qu'on m'a demandé de, alors je ne sais pas, discuter, commenter le livre de Stéphane, parce que c'est vraiment un livre, et je dis ça sans aucune, enfin, c'est pas parce qu'il est à côté de moi, c'est un livre que j'ai adoré lire, et je vais essayer de dire pourquoi, en fait. Alors, peut-être pas en reprenant ce que vous avez dit en introduction sur ce que j'avais fait avant, mais moi, je pense, voilà, je pense que c'est important de dire pourquoi, pour moi, c'est un grand livre de sociologie et un grand livre. Et tout à l'heure, en introduction, vous avez dit que c'était important de lire. Alors, la semaine dernière, on avait invité François Errant au Centre Max Weber, et il disait, en fait, il disait qu'à ses collègues, il avait toujours un mot d'ordre qui était « lisez-vous les uns les autres ». Alors, c'était pas « aimez-vous les uns les autres », mais c'était « lisez-vous les uns les autres ». Et il y a des livres, effectivement, il faut lire, mais il y a en plus des livres où on a un vrai plaisir de lecture à le faire. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment pas se priver. Alors pourquoi moi j'ai les points que je voulais mettre en avant et ça va reprendre des choses que tu as dites, hein, des éléments que tu as dit, et puis alors après je sais pas comment on fonctionne, si tu rebondis dessus ou comment on fait.
On se débrouillera,
voilà. Donc effectivement, moi il y a quelque chose qui m'avait frappé à la lecture du livre, c'était ce projet affiché de raconter l'histoire ordinaire d'une famille algérienne ordinaire en France. Et après, dans l'exposé, tu as dit aussi une histoire classique, finalement, d'une famille algérienne en France. Et je trouve ça extrêmement important et intéressant, et je vais le mettre d'emblée en regard avec un autre point qui me semble très important à traiter quand on est sociologue, et notamment face à des étudiantes et des étudiants. C'est l'idée qu'on peut parler, on peut faire de la sociologie sur une famille, sur une histoire ordinaire, sans avoir la tentation ou la prétention à la représentativité statistique, ou voilà, cette fameuse représentativité. Et il y avait un article dont je me servais beaucoup en cours, donc qui est bien plus ancien que ce livre-là, qui est l'article que tu avais écrit en 96 dans Politics, et qui était aussi sur cette capacité de la sociologie qualitative, de la sociologie par entretien, à dire des choses sur le monde social sans avoir les mêmes ambitions ou les mêmes prétentions à la représentativité que des enquêtes par questionnaire, que des enquêtes avec beaucoup de données, etc. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas s'appuyer, comme tu l'as fait en introduction, en première partie de ton exposé, sur des cadrages statistiques. Mais effectivement, on peut avoir une enquête très fouillée sur un cas particulier. Alors, du coup, je voulais revenir un petit peu sur ce cas particulier. Donc, effectivement, hein, cette histoire ordinaire d'une famille algérienne ordinaire, au rebours de discours qui renchériraient sur les thématiques de la délinquance ou de la radicalisation, et qui est, tu l'as redit en conclusion, qui est en fait l'histoire d'une ascension sociale et qui doit être placée, et donc ça aussi tu l'as redit au début, à la fois dans une sociologie de l'immigration, mais aussi une sociologie des classes populaires. C'est une famille qui est algérienne, c'est aussi une famille qui est populaire. Et moi, en ce moment, je fais une enquête sur des écoles normales de filles. Et moi, j'ai retrouvé beaucoup de choses. Des filles du Nord, de milieu populaire, pas du tout immigrées. Et ce rôle, par exemple, des instituteurs, institutrices qui viennent toquer à la porte en disant là, votre enfant, il faut qu'il continue ses études. Ça, moi, je le retrouve aussi dans énormément de cas, en fait, de dames. Hein. Alors, moi, mes dames que j'interroge aujourd'hui, elles ont 72 ans, et c'est des femmes vraiment de milieu populaire, enfin, qui étaient de milieu populaire du Nord. Et donc, j'ai retrouvé vraiment des points tout à fait communs avec certaines des trajectoires que tu racontes. Bien évidemment aussi, alors moi aussi, hein, j'avais noté les femmes puissantes avec l'image de Marie Ndiaye, donc Samira et Leïla, donc qui sont âgées d'une quarantaine d'années. au moment de l'enquête, et on voit comment elles habitent le livre, comment elles habitent les discours de chacun et chacune des membres de la fratrie, et tu l'as bien redéployé, non seulement parce qu'elles ont réussi, mais parce qu'elles ont porté à bout de bras les frères et les sœurs, elles ont assuré les tâches domestiques, elles ont supervisé la scolarité, elles ont travaillé pour acheter les fournitures et les livres des frères et sœurs, et dispensant tout au long des trajectoires parfois heurtées des unes et des autres, des ressources matérielles et psychologiques. Et puis on voit bien aussi comment ce travail de soutien, il est continu, puisqu'elle surveille étroitement les conversations sur les réseaux sociaux, elle rappelle à l'ordre, elle remet au pas, notamment au moment des attentats. Et voilà, ce choc des attentats en 2015. Alors, en fait, si je voulais vraiment insister sur cette exemplarité, finalement, du livre, tout autant que de la famille, hein, puisqu'on disait famille exemplaire. Alors, effectivement, ça a été dit aussi en introduction que Stéphane a fait un manuel aussi un manuel de sociologie. Et moi, j'arrête pas de conseiller ce livre-là. Donc, comme je le conseille, je le prête. Et du coup, je sais plus où il est maintenant. Mais de conseiller et de prêter à mes étudiantes et étudiants ce livre en disant à la fois, c'est un plaisir de lecture, c'est un exemple de sociologie et c'est un exemple vraiment de méthodologie sociologique. C'est un manuel de sociologie. Alors, pourquoi ? Ouais, achetez-le. Puis la personne à qui je l'ai prêté, qu'elle me le rende, ça serait pas mal. Ben, sinon, je le rachèterais. Mais alors, pourquoi un manuel de sociologie ? Enfin, si je vous dis ça, c'est voilà, qu'on dit lisez-vous, enfin, lisez les livres, même si vous ne travaillez pas sur l'immigration, même si vous ne travaillez pas sur le genre, même si vous ne travaillez pas sur etc., etc., ça vous apprendra des choses sur qu'est-ce que c'est que faire de la sociologie. Alors, pourquoi ? Parce que je trouve que vraiment, en plus, ici, on travaille beaucoup sur les socialisations. L'imbrication, l'articulation des socialisations, on voit vraiment comment une famille ordinaire, cette famille ordinaire, mais comme toute famille, hein, on pourrait dire, et là encore, hein, j'enlève le côté particulier, famille immigrée, etc., ou, voilà, comme toute famille, n'existe que par la juxtaposition de destins individuels qui sont bien particuliers, et on voit comment l'analyse, en fait, enfin, c'est vraiment frappant quand vous lisez le livre. C'est comme si on déployait des focales différentes, des zooms progressifs et qui déploient les singularités. Alors effectivement, on a 8 enfants. On pourrait se dire 8 enfants. Ou on peut se dire c'est 5 sœurs et 3 frères. Ou bien vous vous dites c'est 2 sœurs aînées et 3 sœurs ensuite et les garçons. Ou bien vous vous dites il y a les 2 aînés, il y a la 3e, il y a les 2 dernières. Ou bien vous dites, il y a Samira, il est là, et il y a les autres. Et à chaque fois qu'on prend comme ça une configuration différente, eh ben on voit qu'il y a des socialisations différentes dans le livre qui vont être mises, des articulations différentes qui vont être mises en avant. Parce que chacun et chacune se situe à la croisée de différentes socialisations et dans des contextes qui, eux aussi, et ça c'est extrêmement intéressant, la temporalité, il y a la temporalité de l'enquête, mais il y a la temporalité aussi de la famille. Donc voilà, les contextes qui varient. Et tu l'as redit, hein, effectivement, Leïla, qui, c'est pas juste la deuxième, elle suit Samira. Donc elle va aussi se positionner par rapport à qui a été Samira. Donc ça aussi, vous voyez, le tableau, alors c'était surtout le tableau chronologique, en fait, qui le montrait bien. Je trouvais qu'il resituait bien ça. Et puis tu l'as dit un peu, enfin tu l'as dit à l'oral, quand tu as dit, il était berger, puis elle a été adoptée, puis finalement elle revient dans sa famille. Et toutes ces petites particularités qui pourraient, alors qui en même temps donnent le sel narratif en fait de l'histoire qu'on lit, c'est pas juste de la narration ou de l'anecdote, c'est vraiment ce qui fait la socialisation en fait de chacun et chacune de ces individus. Alors effectivement, moi ce que j'aime beaucoup aussi en sociologie, moi si je fais de la sociologie, je pense que c'est parce que j'aime résoudre des énigmes. Moi je trouve ça incroyable en fait d'avoir des énigmes et puis de se dire comment je peux essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Et là effectivement, on a des énigmes. Alors des énigmes où on peut avoir déjà des billes avec ce qui existe en sociologie des classes populaires, sociologie du genre. Alors par exemple, les garçons qui réussissent moins que les filles. Là, on se dit, effectivement, puis on le voit dans tout le livre, on comprend que à la fois se sont combinées de moindres exigences maternelles à leur égard, parce que ce sont des garçons, en plus ils arrivent après les filles. Je voudrais insister sur cette articulation, l'évolution sociale du quartier, puisqu'ils naissent après les filles, et du coup, enfin, tu l'as dit, le quartier a évolué aussi. Donc, on peut vivre au même endroit que ses grandes sœurs, mais on ne vit pas au même endroit. Enfin, c'est un peu le fleuve, là, de Héraclite, là, il coule, mais c'est jamais la même eau. Bah, un quartier, c'est pareil, c'est le même quartier, mais c'est pas le même quartier. Les effets sur la fréquentation des garçons, l'influence du groupe de pères, tu l'as dit, puis bien évidemment, quand on fait de la socio du genre, les normes de masculinité hégémonique qui ne sont absolument pas compatibles avec la discipline et la bonne volonté scolaire. Donc là, on se dit, et puis bien évidemment aussi le stéréotype de l'arabe qui, s'il n'épargne pas les filles, stigmatise encore bien davantage les garçons. Donc là, on a finalement des choses où, voilà, on comprend. On se dit, bah oui, c'est classique, entre guillemets. On a tous les éléments pour se dire, bah oui, là, c'est finalement quelque chose qu'on comprend assez vite. Mais énigme qui, là, re-arrive, c'est pourquoi finalement ces garçons, donc tu l'as dit, alors qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le bac, etc., finalement aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est au chômage. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas classique et qui est plus compliqué à comprendre que les biblios habituels. Alors voilà, le mystère est ailleurs, alors qu'aucun des fils Belloumi n'a le bac, alors que l'un d'entre eux, tu l'as rappelé, a mal tourné au point de faire de la prison à un moment de sa vie, alors que tous ont eu des adolescences difficiles, donc voilà, masculinité hégémonique, patati patata, pourtant aucun, finalement, n'est au chômage ou dans des situations précaires d'intérim. Et là, bien évidemment, l'analyse que tu amènes permet, et ça aussi j'ai beaucoup apprécié, de fournir des hypothèses. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de moment où c'est asséné, voyez, en disant c'est ça la réponse de l'énigme, etc. À chaque fois, ce sont des hypothèses. On peut supposer que, on peut penser que, etc. Alors, tu en as rappelé certaines, et puis moi, il y en a une aussi que j'avais trouvée très, très intéressante, qui était la disposition précoce au travail, notamment le fait d'avoir fait des marchés, en fait. Et on se dit, y a un des garçons dans sa jeunesse, il fait des marchés, et l'air de rien, est-ce que ça n'a pas créé une disposition, en fait, à se lever tôt, à aller travailler, à la discipline, à la rigueur, etc. Oui, vas-y, c'est ton livre.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est Rachid qui, dès la sixième, travaille sur les marchés à 6h du matin et il est employé par un boucher charcutier. Mmh. Donc il passe son temps à travailler le cochon.
Ouais. C'est vrai. Donc voilà, les autres éléments, tu les as rappelés, hein, effectivement, le rôle fondamental de Leïla qui va l'héberger, qui va l'extirper de la cité, qui réécrit la lettre de motivation, et puis le père qui, parce qu'il... Et là aussi, c'est quelque chose qui est, on pourrait se dire, le père, il est au chômage très tôt, il arrête de travailler très tôt pour cause d'invalidité, mais il est extrêmement présent. Et toujours, il veille au grain, en fait, sur... Et donc, vous voyez, paradoxalement, en raison de l'invalidité, il est protégé du ressentiment envers le pays qu'il a fait venir. Donc, vous voyez, c'est aussi de montrer que selon les familles, une même cause, elle peut avoir des effets aussi différents et qu'on est obligé de toujours articuler un... Il n'y a pas de cause automatique, en fait. Et ça aussi, je voulais vraiment insister dessus, hein, puis après, j'ai plus grand-chose à dire. Et là aussi, hein, c'est vraiment en tant qu'enseignante face à des étudiantes et des étudiants, ou bien que, enfin, aussi en tant que sociologue parfois qui intervient dans la cité, puis qui du coup entend aussi les critiques qu'il peut y avoir par rapport à la sociologie. Combien, la description des lois sociales, elle n'exclut absolument pas la prise en compte des destins individuels. Et comment de travailler sur des déterminismes sociaux, parce que bien évidemment, jamais ne sont remis en cause la force des inégalités, le rôle de l'école, etc. Mais on voit comment la force... À la fois, on a les déterminismes sociaux et on a, dans des contextes marqués par les inégalités et les discriminations, comment les individus, on ne peut absolument pas les comprendre indépendamment des relations qui les lient, de la place qu'ils occupent dans les réseaux et de tout ce qu'ils vont déployer aussi comme tactique et comme stratégie. Et alors, quelques exemples de tactiques et stratégies qui permettent de desserrer l'étau des contraintes. Tu l'as pas recité cet exemple-là, mais donc Madame Belloumi, mère, il se trouve qu'elle est femme de ménage dans un collège et la directrice du collège où elle travaille est l'épouse d'un inspecteur d'académie. Et grâce à ce... Donc, vous voyez, cette mise en relation, ça va lui fournir une tactique, enfin, une arme, on pourrait dire une arme des faibles, hein, finalement, mais elle va s'en servir. Elle va tenir tête au proviseur. Il se trouve que le proviseur veut exclure une des cadettes, Amel. Et en fait, Madame Belloumi va menacer le proviseur de se renseigner sur la validité de l'exclusion auprès de l'inspecteur, qui est le mari de la directrice du collège. Donc, vous voyez, on peut dire, les femmes de ménage dans un collège, bah, voilà, il y a une tactique qui permet... Alors, encore une fois, hein, arme des faibles, faible arme, etc. Mais n'empêche qu'il y a ça qui arrive. Et puis, bah, tu l'as redit, hein, bien évidemment, les stratégies de Samira et Leïla, qui sont des véritables stratèges scolaires pour leurs frères et sœurs. Et puis, effectivement, cette idée de s'engager dans l'enquête... Et tu l'as dit toi-même, est-ce que s'engager dans l'enquête n'est pas aussi une stratégie de leur part et t'embarquer dans cette enquête-là, le but étant de contribuer à détricoter les représentations stéréotypées. Donc effectivement, hein, je voulais revenir aussi sur un des intérêts très forts de ce livre, c'est bien évidemment de rompre avec les stéréotypes et de mesurer aussi, quand on le lit, alors, même si on le sait, même si on a des documentaires, on a des reportages, on a des articles, on a des livres, mais de se reprendre quand même la lecture de la force du stigmate, en fait, qui est infligé à ces enfants, adolescents, adolescentes, etc. Le livre fourmille d'exemples. Orientation au rabais proposée au conseil de classe. L'entrevue dont je parlais tout à l'heure de Madame Belloumi avec le proviseur, où le proviseur s'adresse à Madame Belloumi en détachant de façon exacerbée les mots, en supposant qu'elle ne comprend pas le français, quoi, tout simplement, etc., etc. Et tout le racisme plus ou moins larvé, puisqu'il est intéressant, de moins en moins larvé, quand même, des situations professionnelles, les contrôles aux faciès, etc., etc. Les textos affolés échangés entre les sœurs après chaque attentat, ça aussi, c'est vraiment très, très frappant, comment, après chaque attentat, c'est les textos entre les sœurs, et qui montrent comment même ces sœurs, les sœurs aînées, dont on peut se dire, elles ont coché toutes les cases de l'intégration, bah, il y a encore ce sentiment de fragilité de l'intégration et de précarité en fait de l'acceptation. Je voulais juste finir sur un petit aussi un gros remerciement parce que moi ce qui m'a beaucoup aussi ému finalement, alors outre cette famille là et puis ça, le déploiement de toutes ces articulations de socialisation. Eh ben, c'est aussi le regard sur le métier de sociologue que donne le livre. Alors, tu parlais du temps, en fait. On voit... Alors, il y a bien évidemment les 5 ans, on se dit, effectivement, il y a les cours, il y a les ceci, il y a les cela. 5 ans, c'est aussi parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Mais je pense qu'aussi, les 5 ans, ça permet... Je pense qu'on ne fait peut-être pas la même enquête en 5 ans qu'en 2 ans et qu'elle aurait toute cette familiarité... Enfin, même si tu n'écrivais pas tout le temps, peut-être qu'entre deux mois où tu n'écrivais pas, il y avait quand même les textos, il y avait quand même... on voit combien il faut du temps, en fait, pour faire une enquête de ce genre-là, en fait.
Rajouter avant d'oublier, mais c'est une enquête, justement, où j'ai vraiment procédé comme il ne faut pas faire. Hein, c'est-à-dire que je notais très peu de choses. Je m'enregistrais pas mal sur mon iPhone, etc. Mais j'avais beaucoup de matériaux, mais j'ai mis beaucoup de temps. Et en fait, je l'ai écrit assez vite, ce livre, parce que je pense que j'avais vraiment mûri dans ma tête, mais sans avoir les écritures intermédiaires. On dit toujours aux étudiants de master et de thèse, écriture intermédiaire. Et quand on arrive à un certain âge, avec un certain nombre de cheveux blancs, on se prive de tout ça.
Et puis aussi, alors justement, pour les sociologues de licence, de première année, de master, de tout... Moi, j'ai été extrêmement étonnée. Et puis en même temps, quand je disais l'émotion, c'est de lire aussi les tâtonnements, les remises en cause, les hésitations. Alors, c'est vrai que souvent, quand on lit un livre de sociologue chevronné, tout ça, en fait, tous l'échafaudage, il n'y est plus. Donc, soit ils sont tellement, tellement chevronnés qu'ils n'ont plus d'hésitations, mais je pense que non. Je pense qu'il faut continuer à avoir des hésitations, et heureusement. Mais... je pense que souvent, même ceux qui ont les hésitations ne marquent plus les hésitations. Et là, à plusieurs reprises dans le livre, moi, j'ai trouvé ça extrêmement important, en fait, justement, pour les gens qui lisent. Les questions que tu te poses. Est-ce que là, je me suis fait embarquer par Samira? Est-ce que par excès de discrétion ou de pudeur, j'ai pas osé, enfin, toi, tu n'as pas osé assez interroger Leïla sur la précarité matérielle de la famille. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas manqué de suite dans les idées ou d'aplomb pour insister par rapport à un frère? Au moment de Charlie Hebdo, tu dis, bah, peut-être qu'à ce moment-là, j'ai pas été assez disponible parce que j'étais moi-même pris dans mon émotion. Et je pense que là, vraiment, c'est un des apports de ce livre-là, de dire, un sociologue ordinaire face à une famille ordinaire, et ça fait un livre extraordinaire. Et donc, je voulais juste m'arrêter en fait avec, conclure avec une phrase de Rancière. De Jacques Rancière, parce qu'il se trouve qu'en même temps que je lisais le livre de Stéphane, je lisais Les bords de la fiction de Jacques Rancière. Et il y avait une citation, en fait, quand j'ai fini le livre de Rancière, qui me semblait totalement accordée à ton livre. Parce que Rancière, dans Les bords de la fiction, il se demande, en fait, pourquoi, donc il parle de ce qu'il appelle le pacte de rationalité fictionnelle. Et en fait, il raconte que pendant très longtemps dans la littérature, on accordait très peu de place aux histoires ordinaires qui arrivent aux gens sans importance. Et il dit, il y a eu tout un mouvement de la littérature, et aidé par les sciences sociales, de remettre en fait de l'importance à ces gens sans importance. Et donc, il s'interroge sur l'intérêt de ces gens sans importance. Et il dit peut-être, et donc voilà, c'est une phrase que je voudrais dédier à ton livre, peut-être qu'à travers toutes ces aventures se poursuit une même enquête sur la révolution par laquelle ceux qui ne sont rien deviennent tout. Voilà, et je pense que tu y contribues totalement. Merci. Voilà.
Merci. Je n'ai pas de grand-chose à ajouter. Non, j'avais effectivement été très, très touché par le texte que tu avais publié dans la revue en ligne que je vous conseille, qui s'appelle AOC Média. Ce n'est pas un titre extrêmement attirant. AOC, c'est Analyse Opinion Critique. Voilà, c'est pas sur le fromage. C'est AOC Média, c'est dirigé par Sylvain Bourmeau. Et c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment intéressant. 9 euros par mois. Récemment, il y a eu un très beau texte du philosophe Pascal Engel, ou Angèle, sur la philosophie de Trump. Je vous laisse le découvrir.